Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du monde médico-social. Je suis Arnaud Chevalier. Après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'ai décidé d'utiliser mon expérience pour travailler sur les outils qui vont permettre de simplifier et d'améliorer le quotidien des usagers et des équipes. J'ai créé ce podcast pour partager les belles réalisations ou les retours d'expérience entre les acteurs du secteur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à le partager. Aujourd'hui, j'échange avec Antoine Gérard qui a créé le podcast Sociogérontologie. Dans cet épisode, il nous explique ce qu'il entend par sociogérontologie et pourquoi il a lancé ce projet de podcast. Nous revenons sur ses prises de position fortes et sa manière de remettre en question tous les concepts du secteur médico-social, comme l'intergénérationnel, le bien vieillir ou encore le rôle de l'animation. Vous êtes prêts? C'est parti! J'ai découvert ton podcast il y a quelques temps, c'était en fin d'année, il me semble, sur la sociogérontologie. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Ouais.
Pour les gens qui n'ont pas écouté.
Alors, la sociogérontologie, c'est un terme que j'ai inventé pour donner un nom au podcast. C'est pas une discipline scientifique en tant que telle, hein, clairement pas. Je ne revendique pas du tout cette scientificité. C'est juste que moi, je suis sociologue de formation. J'ai également un master de gérontologie. Mais je ne me reconnais ni pleinement dans l'un, ni pleinement dans l'autre. En revanche, je pense qu'il y a nécessité d'apprendre des personnes âgées, apprendre auprès des personnes âgées ce qu'elles vivent. Je pars du principe que le savoir ne réside pas dans une discipline telle que la psychologie, la sociologie ou la santé, mais réside chez la personne. Le principe de sociogérontologie, c'est le slogan du podcast, hein, c'est de comprendre les vieux. Et donc, moi, je m'intéresse aux personnes âgées, à comment elles vivent, à comment elles sont, comment elles appréhendent le quotidien, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs choix, comment elles les justifient. Et c'est ça, pour moi, la sociogérontologie. C'est juste un moyen de comprendre les vieux.
OK. Pour moi, tu m'apprends que... Je pensais que ça existait. Je pensais que la sociogérontologie, c'était une discipline... OK. Alors du coup, je recommande à tout le monde d'aller jeter un œil à tes podcasts parce que ils sont vraiment sympas, super intéressants. On va revenir en détail dessus. Quelques avantages rapides, c'est que déjà ils sont assez courts et du coup on peut très facilement les écouter et ils sont en plus vraiment vraiment intéressants. Mais j'ai appris vraiment plein de choses. Tu les diffuses sur toutes les plateformes
ou comment on les retrouve? Alors les épisodes font 10 minutes, ça c'est la ligne éditoriale, c'est 10 minutes, c'est une petite dose, un sujet par un sujet. Quand le sujet est plus long, je peux faire deux épisodes dessus, mais avec chaque fois un angle différent, donc on peut écouter les épisodes séparément et on les retrouve sur toutes les plateformes de podcast et sur la page dédiée sociogérontologie.
Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce podcast? Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer?
Ce qui m'a amené à me lancer, c'est vraiment l'envie de transférer un certain nombre de connaissances, des choses que je fais traditionnellement plutôt en formation, mais l'année 2020 a empêché toute forme de formation traditionnelle, on va dire, et a nécessité de se réajuster. Ces contenus, c'est plutôt des contenus qui, d'habitude, je destinais à l'interne et qui me semblent pouvoir servir plus de personnes. En termes du ton, le ton n'est quand même pas un ton habituel. Hein, je suis assez franc, direct. Je mets plutôt les pieds dans le plat. Et ça, c'est pour moi une nécessité parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je vois depuis 10 ans que je suis dans le secteur qui ne me conviennent pas dans la manière de voir les choses, dans la manière d'appréhender les choses et dans la manière dont on considère la personne âgée. Donc, tout ça mélangé fait que le podcast, c'était le bon compromis pour moi. Et c'est comme ça que je me suis lancé.
Alors, du coup, est-ce que, puisque la sociogérontologie, ça n'existe pas, est-ce que toi, tu es sociogérontologue? Ou alors, tu es sociologue qui t'intéresse à la géronto?
Ouais,
est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien, en fait, ce que tu fais dans la vie?
Sociogérontologie, c'est vraiment un podcast, un projet un peu annexe que je fais sur mes heures perdues pour m'amuser un peu. Mon vrai métier, c'est responsable recherche au sein de Domitys. Au sein de Domitys, on a créé il y a quelques années un pôle recherche qui consiste à d'abord faire des recherches sur le bien-être, la qualité de vie et tout le domaine de la prévention auprès des personnes âgées, et également de chercher à mieux comprendre ces personnes âgées, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles attendent de nous, c'est quoi leur vie, et de mêler les deux pour réussir une démarche d'amélioration de la qualité de vie. Et donc le quotidien, c'est quand même un quotidien de chercheur. Je fais des études, que ce soit qualitative ou quantitative. Ces études, je les mène, je les analyse, je rédige les rapports, je publie les résultats. Ces résultats, on les met en application en interne. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce côté très, applicatif. C'est-à-dire que pour moi, la recherche, c'est qu'un moyen, ce n'est pas du tout la finalité. Pour moi, la finalité, c'est vraiment d'améliorer ou le quotidien des personnes âgées de manière directe ou de manière indirecte en travaillant sur nos compétences professionnelles, sur la manière dont on mène nos pratiques, sur nos valeurs. Et donc, cette partie applicative, pour moi, elle est vraiment centrale. Et donc, un socio-gérontologue comme moi, je passe, on va dire, la moitié de mon temps sur la recherche pure et l'autre moitié de mon temps sur de l'application pure.
Ok. Et tes recherches et les publications, elles sont diffusées, elles sont publiques?
Alors, en partie. Comme je travaille pour Domitys, on garde une partie des choses en interne jusqu'à ce qu'on les ait exploitées. Et puis, il y a toute une partie qui sont publiées dans des revues scientifiques, etc. Ce qui est dans sociogérontologie, ce n'est pas de la vulgarisation scientifique. Ça reste vraiment sur un autre registre. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Et donc, pour donner quelques indications en termes de recherche, les publications sont d'abord des publications scientifiques, donc dans des revues scientifiques, dans des articles, dans des ouvrages collectifs, lors des colloques. Et puis ensuite, on va avoir plus un travail de communication qu'on a fait de l'étude, plus que des résultats de l'étude, via Domitys.
Tu l'as dit, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans les podcasts, c'est que tu mets vraiment les pieds dans le plat et tu commences, ça doit être le premier ou l'un des premiers épisodes, avec c'est pas tellement une définition, mais c'est plus un constat que tu annonces sur le fait d'être vieux. Qu'être vieux, en fait, c'est pas top. Tu
Ouais,
peux
je m'oppose
peut-être
assez à
rebondir.
l'idée que la vieillesse est un âge merveilleux, l'âge de la sagesse, etc. Je vais paraître un peu radical, hein, mais pour moi, être vieux, c'est parfois moche, c'est rarement satisfaisant et c'est toujours difficile. Et c'est important de dès le départ, rétablir cette réalité-là. Parce que sinon, on arrive avec une sorte de dissonance collective, cognitive, des personnes qui pensent que vieillir, c'est bien, c'est merveilleux, et des professionnels qui s'épuisent au travail parce qu'eux, ils font face à une autre réalité.
Oui, carrément. Et puis, c'est vrai que ce qu'on peut entendre ou voir au quotidien ou ce qu'on peut avoir l'impression, c'est qu'on essaye de nous convaincre qu'en fait, mais non, enfin, c'est pas nous convaincre parce que vieillir, c'est. Enfin, tu vas un peu sur un peu. Tu vas loin, quoi. Je dirais pas que c'est une caricature, mais tu mets les pieds dans le plat. Après, évidemment, c'est pas toujours comme ça. Mais quand même, c'est vrai que ce côté parfois difficile qui est souvent. Qu'on retrouve souvent, du coup. Dans le secteur médico-social, parce que sinon on est juste chez les seniors et tout va bien. Mais c'est vrai que souvent on a tendance un peu à le minimiser, je dirais. Et c'est surprenant la première fois que tu le dis, parce qu'on se dit ouais, il va loin quoi. C'est un peu à contre-courant. Et c'est ça que j'ai trouvé cool.
Ouais, il y a quand même une volonté d'être à contre-courant. Quand je me suis lancé dans le podcast, je me suis longtemps interrogé sur est-ce que j'ai quelque chose à dire? Et pour moi, ou j'avais quelque chose à dire de différent, ou sinon ça valait pas le coup que je le dise. Et ça, c'est une ligne directrice que j'ai dans chacun des podcasts. Si quelqu'un a déjà dit ce que je dis, de la même manière que moi, et aussi bien ou mieux que moi, il n'y a aucune raison pour que je le dise. Si je dis quelque chose, c'est parce que je pars du principe que ça n'a ou pas été dit, ou pas de la bonne manière, ou pas suffisamment entendu.
Alors, il y a ce côté où tu parles de la définition de la vieillesse, mais au fur et à mesure des podcasts, des épisodes, ce qui est super intéressant, c'est que tu abordes plusieurs thématiques. Et là aussi, où c'est peut-être moins clivant, mais il y a quand même beaucoup de remises en cause. Moi, perso, sur pas mal de sujets, je me suis dit mince, ouais, je me suis dit mince, il a raison, en fait, la manière dont je pensais un peu le truc, ou finalement, où je pensais pas forcément, tu vois, c'était de se dire. Quand tu parles, par exemple, de l'intergénérationnel, du bien vieillir, des choses qui me semblent être au goût du jour et pleine de bon sens. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bonnes choses, mais tu mets des petits tacles quand même en disant attention, attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, attention à comment on voit les choses. Et puis après, sinon, il y a aussi pas mal de sujets dans lesquels je me suis vraiment, vraiment retrouvé. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené justement à aller sur ces sujets-là où tu remets en question la notion du bien vieillir, par exemple?
De manière générale, ce qui guide mon choix de sujet, c'est toujours une structure où je peux casser un préjugé qu'on pourrait avoir sur le sujet. Ça, c'est un point vraiment important. Dans la forme, j'aime bien apporter cette contradiction qui va attirer l'oreille, mais dans le fond, surtout dans le fond, j'aime m'attaquer à des sujets où on pense différemment en temps normal. Par exemple, si tu reprends l'exemple du bien vieillir, aujourd'hui, on ne parle plus du secteur de la vieillesse, du médico-social, de la gérontologie. On parle du marché du bien vieillir. OK, très bien. Mais qu'est-ce que ça signifie en faisant ça? Quelles en sont les conséquences? Pourquoi est-ce qu'on choisit ce terme-là et pas autre chose? Ça, c'est des questions qui m'interrogent. C'est des choses qui me posent question et que j'ai besoin d'analyser, de prendre du recul par rapport à ça. Sur l'intergénérationnel, c'est typique. C'est un sujet qui est extrêmement à la mode, tout le monde en parle, tout le monde pense que c'est merveilleux. Est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce que l'intergénérationnel va régler tous nos problèmes? On entend beaucoup parler d'inclusion, d'habitat collectif. Est-ce que le collectif est réellement une solution au problème de la solitude qu'on veut bien lui faire croire? Enfin, c'est vraiment re-questionner tout un tas de sujets qu'on ne questionne plus, en fait. Et c'est ça qui est dommage. Je veux qu'on se réautorise à poser des questions de choses qui paraissent une évidence et que plus personne n'a le droit de questionner.
Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et sur cette logique, alors de mots qu'on peut utiliser parfois et qui sont un peu des mots-clés ou un peu des totems finalement, qu'est-ce que tu penses de l'importance des mots qu'on peut... Tu trouves pas que dans le secteur médico-social, les mots sont parfois... Enfin, on donne trop d'importance à certains mots. Ou alors il y a des mots, tu vois, sur lesquels ça fait un peu cliché, où on a des blocages. Tu vois, justement, le terme vieux, tu l'as dit, c'est comme si on n'a pas le droit de dire un vieux, et finalement, ou alors il faut le dire, mais d'une manière positive. Enfin, je ne sais pas, je trouve on a une drôle d'approche et de position par rapport aux mots.
Il y a certains, j'irai plus loin, il y a certains mots qui sont même devenus presque des cultes, qui on ne s'autorise pas à revenir en question. À un moment donné, j'ai un autre épisode sur le sujet en cours de construction, sur l'inclusion. Tout le monde est merveilleux, mais oui, évidemment, personne ne va dire que l'inclusion, c'est mal. Personne ne va faire le choix de l'exclusion. Sur la bienveillance, tout le monde est pour la bienveillance. Personne ne va faire le choix de la malveillance. Eh ben moi, c'est ça qui m'embête vraiment. C'est le fait qu'on ne puisse plus les réfléchir, que ces termes-là, il suffit de les apposer sur notre slogan, sur le descriptif de notre mission, pour qu'ils soient merveilleux. Il faudrait regarder, mais combien de projets en 2020 ont mis le mot intergénérationnel dedans, juste parce que c'est à la mode, sans réfléchir à ce qu'il y a derrière, sans se poser vraiment la question de c'est quoi l'intérêt. Et il y a des projets intergénérationnels qui sont merveilleux, qui sont vraiment incroyables. Et il y en a d'autres, c'est du pur opportunisme. Et cet opportunisme, c'est une absence de réflexion qui, moi, me semble dégrader la santé du secteur. Alors, bien nommer les choses, pour moi, c'est important. Il ne faut peut-être pas donner autant d'importance que ça sur le fait de bien nommer, mais pour moi c'est important. Ce qui est important aussi, c'est qu'on sache, qu'on se mette d'accord sur ce qu'il y a derrière. Par exemple, l'intergénérationnel est un bon exemple. L'intergénérationnel, ça devrait juste être de l'échange entre deux générations, donc on va dire 20 ans d'écart. Il s'avère que quand on fait de l'intergénérationnel aujourd'hui, il faut prendre les plus vieux et les mettre avec les plus jeunes. C'est quand même assez réducteur comme moyen de penser l'intergénérationnel. Au sein d'un établissement médico-social, ou même pas médico-social, hein, d'une résidence, on va déjà avoir des générations qui sont différentes, différentes dans les résidents, différentes dans le personnel qui y travaille. Les vieux n'attendent pas de nous qu'on crée artificiellement des choses qu'ils n'ont pas besoin. Et si je reprends ton exemple sur le mot vieux, Le mot vieux est violent parce qu'il a une connotation négative. Et ça, typiquement, je ne peux pas me contenter de dire le mot vieux est violent parce qu'il a une connotation négative, donc nous l'utilisons plus. Au contraire, je vais utiliser le mot vieux parce qu'il a cette connotation négative pour expliquer que ce préjugé, ce n'est qu'un préjugé et qu'il faut arrêter d'avoir peur des mots et qu'il faut s'intéresser au fond du sujet. Si c'est juste pour recréer un tabou, on ne règle aucun problème. Au contraire, le tabou ne fait que laisser s'amplifier un problème au lieu de l'attaquer de front. Donc moi, mon propos, c'est plutôt de dire, arrêtons d'avoir peur des mots et réfléchissons à pourquoi on utilise ces mots-là. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? J'ai un épisode sur les vieux. C'est sans doute un des épisodes qui a fait le plus de débats. Peut-être pas le plus, mais quand même pas mal. Et c'est quand même intéressant de voir finalement que c'est surtout les préjugés des gens qu'il y a derrière, en fait, que ça percute.
Ouais, non, mais c'est on a tous, et je pense que c'est normal, des préjugés. Moi, par exemple, en écoutant des épisodes sur l'intergénérationnel, je me suis revu à une période où je cherchais absolument à faire venir des écoles dans un EHPAD, et finalement, aussi de revoir certains résidents à qui on pouvait demander, ben voilà, tu vas sur des commissions animation, ben, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse venir des enfants, des jeunes de l'école? Et concrètement, ils nous disaient, bah non, pas besoin, pourquoi faire? Je dis, bah non, mais ça peut être cool. Et c'est vrai que, et c'était marrant d'une certaine manière de voir aussi quand les enfants arrivaient. Alors voilà, souvent ça faisait beaucoup de bruit. Et du coup, on avait une partie des résidents, je dirais une petite moitié, qui fuyaient en disant, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Je me casse. Et c'est vrai que du coup, c'est intéressant parce que. C'est un peu presque, c'est pas une obligation, bien sûr, dans un EHPAD de faire venir des enfants, mais c'est vrai qu'on a tous cette logique-là d'aller faire un partenariat avec l'école en se disant ils vont venir quelques fois dans l'année et puis ce sera cool, et on fera des goûters, on fera des trucs, ce sera très bien. Et ce que tu dis aussi, c'est que à la fin, ça peut être une source de alors je sais pas si on peut dire tristesse, mais de déception ou autre quand finalement on est sur un échange intergénérationnel éphémère qui s'inscrit pas dans la durée et où finalement bah, quel intérêt de s'investir dedans quand on sait que bah ouais, ils vont venir 3 fois et puis c'est fini quoi et j'aurai plus de nouvelles donc à quoi bon?
Et tu vois, l'exemple de l'intergénérationnel me semble très bon, parce que à l'origine de cet élan que tu décris, hein, à mon avis, je pense que tous les établissements, à un moment donné ou à un autre, ont eu l'idée de faire venir une classe. Cette dynamique qu'il y a derrière, c'est une dynamique qui dit, ben voilà, j'ai envie d'apporter du bonheur à mes résidents, de la
Oui,
joie, de la
clairement.
jeunesse, etc. J'ai envie de faire quelque chose de bien pour eux. Et ça, cet élan, il est super. Il faut utiliser cet élan. Mais mettre un tout petit peu plus de réflexion dedans. Je veux faire en sorte d'apporter un peu de bonheur à mes résidents. Lesquels seront ceux qui seront touchés par ces relations intergénérationnelles? Déjà, c'est sans doute pas tout le monde. À moi d'identifier ceux pour qui ça a de l'intérêt et de leur proposer que à eux et de ne pas faire subir aux autres, à qui d'ailleurs on dit vous êtes chez vous dans l'établissement. Mais là, aujourd'hui, on va quand même faire venir du bruit des enfants que vous ne connaissez pas et qui vont venir vous déranger. Enfin bon.
Ouais, c'est ça.
Réfléchir. Réfléchir à qui sont ceux qui sont intéressés pour cela. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce que les 2, 3, 4 personnes dans l'établissement qui sont vraiment passionnées par ça, eh ben, on peut leur apporter cet élément-là. Ensuite, comment on leur apporte? Est-ce que c'est avec des enfants qui vont voir 3 fois dans l'année? Est-ce que c'est avec une correspondance sûrement sur quelques-uns? Est-ce que c'est en se rapprochant de leurs petits-enfants parce qu'ils ont cette frustration que leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants ne viennent plus assez souvent? Enfin, voilà, vraiment se poser la question de comment on va maximiser à effort constant hein, cette envie de lien. Et une fois qu'on a fait ça, quand on se rend compte que j'ai des personnes qui seraient heureuses de rencontrer des classes le temps d'eux, de 2, 3 animations dans l'année et que ça leur convient, alors on y va. Mais si ce n'est pas le cas, il faut réfléchir à ce qu'on peut faire à ressources égales de plus impactant. Pour tous ceux qui n'ont pas besoin du lien avec une école parce que c'est bruyant, etc., ben peut-être que c'est une autre forme de lien qu'ils veulent. Pour ceux qui ont envie d'une relation intergénérationnelle, mais qu'ils ne le voudraient pas dans le cadre d'une classe où il y aurait 30 enfants d'un coup, que ça ferait du bruit, que ça serait juste 3 fois dans l'année, on se lie avec les personnes, puis finalement, à peine on a fait connaissance, qu'on ne les reverra plus parce que le projet s'arrête aux vacances d'été. Est-ce que ça a vraiment le sens? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, je pense que la question mérite d'être posée.
Ouais.
Après, il reste un élément qu'il faut prendre en compte, hein. C'est la motivation de l'établissement et de l'animateur. Peut-être que ce projet, c'est quelque chose auquel l'animateur croit, auquel il est porté par ça, et dans ces cas-là, peut-être que ça vaut le coup d'aller au bout. Mais ne pas se cacher derrière l'idée que c'est pour les vieux qu'on le fait. Assumer que c'est parce que c'est un projet qui nous tient à cœur en tant que professionnel, et que c'est OK, en fait, qu'en tant que professionnel, on fasse des choix de ce genre.
Alors, tu mentionnes l'animateur et tu as toute une série d'épisodes sur l'animation que j'ai trouvé vraiment excellente parce que je m'y suis vu là aussi. C'est là où c'est intéressant, c'est cette notion d'animation, pourquoi on fait l'animation, qu'est-ce que c'est l'animation et quel est le besoin vraiment derrière, pourquoi on le fait. Voilà, souvent, enfin, souvent, je ne sais pas si c'est souvent, mais parfois dans certains établissements où je ne sais pas d'où vient le. Quelle cause et d'où vient ce problème-là, mais souvent l'animation, on en arrive à faire des activités, à faire de l'animation et à perdre un peu le sens qui est, selon moi et selon toi aussi, a priori, vraiment la logique de créer et d'entretenir un lien social, en fait. C'est tout, c'est juste une discussion, c'est juste de l'échange et l'animation, c'est le prétexte à l'échange et au lien. Et ça, tu le dis vraiment, vraiment bien, quoi. Enfin, c'était vraiment. Vraiment top, et je me dis, c'est une série d'épisodes qui où je me dis, mais qui vaudrait le coup d'écouter dans tous les établissements parce que ça permet vraiment de se remettre un peu en question et de revenir à l'essentiel, quoi. J'ai trouvé vraiment intéressant.
Tu as très bien dit les choses, hein, tu as dit deux choses. L'animation, c'est juste un moyen de satisfaire ce besoin affectif, ce besoin de lien que les personnes ont. Juste un moyen. Et à partir du moment où on perd ce côté de prétexte, alors on perd le sens de l'animation. Et donc ça, c'est un point qui nécessite vraiment vigilance. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à le perdre? Moi, je pense que c'est parce que c'est plus séduisant pour un animateur de se dire qu'on va faire quelque chose un peu de thérapeutique, quelque chose qui aura un peu plus de sens que juste sur le moment présent. Et c'est une première erreur, hein, c'est une première erreur qui vient de la pression de nos établissements à vouloir que tout ait du sens d'un point de vue thérapeutique. Et c'est une erreur parce que en mettant un peu ce label animation thérapeutique, en disant que l'aquagym ou que la prévention des chutes, ça va permettre d'entretenir votre corps pour vous sentir mieux. En mettant d'abord ce label, on va se priver de la participation de ceux qui en auraient le plus besoin. Parce que c'est ça ce qui apparaît dans nos établissements, c'est que on a toujours la même minorité de résidents qui participent à toutes les activités et qui sont celles qui ont déjà le moins besoin de ce qu'on apporte.
C'est ça.
Tout l'enjeu, c'est de réussir à aller chercher les autres. Et quand je dis aller chercher, c'est pas prendre par la main pour les amener jusqu'à la salle. Non, non. C'est de comprendre ce qui serait susceptible de les intéresser et de le mettre en place. Et ça nécessite de comprendre que l'intérêt de l'animation, c'est de la satisfaction du lien social et que le thème, le sujet, la durée, le nom de l'animation, c'est que le prétexte pour y réussir. Et on a besoin d'un prétexte. C'est pas méprisant quand je dis que c'est juste un prétexte. On ne fait pas les choses avec les vrais. On n'apprend jamais les vraies motivations des choses pour lesquelles on fait les choses. Il nous faut toujours un prétexte. Et quand on va à une animation, on sait rien, moi, conférence, même si le sujet ne nous intéresse pas, on peut y participer parce que c'est que le prétexte à vivre un moment collectif avec les autres résidents. Et c'est ça, et c'est ce côté-là qu'il faut réussir à retenir. Après, il y a plein
Justement,
d'autres enjeux qui sont abordés hein, sur la partie de l'animation, qu'on ne désarrive pas là, mais des choses qui sont assez aberrantes au niveau de la gestion du temps, au niveau de comment chacun trouve sa place, etc. Qu'il faudrait que je fasse des épisodes plus longs, plus détaillés sur ces sujets, mais qui sont intéressants. Et pour la petite histoire, ça fait quelques années que j'aide des, enfin, que j'accompagne et que j'encourage à des étudiants de d'IUT sur ce sujet de l'animation en gérontologie. Et systématiquement, je me retrouve à devoir combattre cette idée que l'animation, c'est la solution à tous les maux, et que le côté juste occupationnel, lien social, rire, parler, ça arrive au dernier niveau de ce pourquoi on participe. Alors que si vraiment on s'intéresse aux personnes, on se rend compte qu'en fait, bah, c'est tout totalement inversé, quoi. Les personnes participent d'abord parce qu'il y a la possibilité de ce lien social.
Ouais, je suis d'accord, et qui est super, super intéressant. C'est presque le métier de base d'un établissement de vie en collectivité. Permettre aux gens de se rapprocher et de vivre à peu près ensemble. Il y a un moment aussi, je rebondis là-dessus parce que c'est un passage intéressant et moi qui m'a toujours marqué aussi et qui illustre, enfin qui est peut-être aussi une source de complexité terrible pour les équipes des établissements, c'est que on parle d'un lieu de vie dans lequel les gens vont vivre ensemble, sauf qu'ils ne se sont pas choisis. Et du coup, voilà, mis bout à bout, on se dit ouais, mais il y a quand même un sacré bug, quoi, c'est super compliqué. Alors après, j'imagine pas que, enfin, comment les gens pourraient se choisir et se dire, bon, bah, allez, on va se faire un EHPAD ensemble, on va aller. C'est pas possible non plus. Mais c'est aussi toute la difficulté de la chose et toute la difficulté du métier d'animateur, des autres métiers aussi, mais de l'animation, d'être capable de pouvoir créer du lien entre les personnes, mais des personnes qui à la fois sont fragiles, mais qui en plus, bah, finalement, n'ont pas forcément de points communs, quoi. Elles sont là un peu, bah ouais, y a une part de hasard, quoi.
J'ai aussi un épisode là-dessus, sur l'illusion qu'on a du collectif et on croit que ça va résoudre tous nos maux. Mais c'est une aberration. C'est une aberration parce que tu l'as dit, hein, ils ne se sont pas choisis. On leur assure que c'est un lieu de vie. Mais de leur point de vue, ça n'a rien d'un lieu de vie déjà. Tu vois, au moment où la personne rentre dans l'établissement, elle ne le sent pas comme un point de vue. Si on reprend vraiment ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, dans les premières semaines, voire les premiers mois, elle est loin d'admettre que c'est un lieu de vie, même si elle sait qu'elle va devoir y vivre un certain nombre de temps. Le travail de l'animateur, de faire prendre conscience qu'on peut prendre ses aises, qu'on peut se sentir chez soi, et ce n'est pas que de l'animateur, hein, même si l'animateur, pour moi, joue un rôle un peu clé, puisqu'il est peut-être plus autorisé que les autres de l'équipe à avoir ce temps, à avoir cette disponibilité pour les résidents. Et encore, ça doit dépendre des établissements, hein. On ne peut pas être exhaustif à ce niveau-là. Mais ce défi de se dire, on va réussir à ce que chacun trouve sa place, c'est un vrai défi. Et le fait qu'ils partagent un niveau de dépendance ou un âge en commun ne signifie pas du tout que, enfin, c'est pas du tout suffisant pour faire communauté, pour faire collectivité. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire d'aller plus loin, hein, ce n'est pas ce que recherchent les personnes. Et ce que les personnes recherchent, ce n'est pas de vivre dans une communauté. C'est de recréer quelques liens d'amitié, quelques liens de. Amitié, c'est peut-être un peu fort, mais quelques liens d'affinité qui vont pouvoir satisfaire leurs besoins de lien social. Et pas forcément avoir l'impression d'appartenir à un groupe, etc. Certains vont aller jusque-là, mais ça reste une minorité qui, de toute façon, réussira à s'intégrer un petit peu partout. Non, le vrai défi, c'est les autres. C'est ceux qui ne participent pas naturellement à nos activités. C'est ceux qui restent dans leur chambre et disent que tout va bien, alors qu'on les voit évoluer de jour en jour et pas forcément pour le mieux. C'est eux le vrai défi. Et moi, ce que j'en appelle toujours, c'est d'arrêter de parler des résidents de manière globale. Et même si les gens n'aiment pas qu'on mette les personnes âgées dans des cases, essayer de regarder qui sont ceux peut-être sur lesquels on peut se concentrer parce que. On voit bien qu'on n'a pas encore réussi la mission d'intégration.
Ouais, non, je te rejoins et c'est là où il y a énormément de choses à retravailler, à continuer de travailler. Et je trouve que voilà, ces épisodes-là, pour les animateurs, je pense que ça peut être super intéressant parce que c'est presque, j'inviterai les directeurs et tout. Alors, je ne sais pas comment le faire passer le message, mais d'une manière, tu vois, pas trop directe pour pas que ce soit finalement, bah, tiens, regarde un peu, c'est un cours, ça va t'expliquer comment ça marche. Mais pour parce que ça marcherait pas, mais de voilà de pouvoir Réfléchir un peu là-dessus, parce qu'il faut se dire aussi que les animateurs, alors en ce moment, mais même tout le temps, ils sont pas nombreux, ils sont pas assez nombreux, et du coup, ils ont aussi, comme tout le monde, le nez dans le guidon, en fait. Et que c'est au bout d'un moment où finalement, il y a de forts risques et ils ont beaucoup de chance, même si c'est pas une chance, d'oublier un peu le pourquoi en courant toujours après des objectifs qu'on peut leur donner. Et un sujet aussi assez marrant qui va à l'encontre de tout ça. Je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est cette notion aussi qu'on peut avoir toujours à demander des comptes, des reportings et tout ça, et où finalement l'animateur à la longue fait plus d'animation, mais remplit des fiches de suivi et de traçabilité, ce qui est aberrant par rapport à sa fonction et aux besoins des résidents.
Surtout si l'objectif, c'est pas qu'il y ait un maximum de personnes qui participent à l'animation. Si
Ouais.
l'objectif, c'est que chacun y trouve sa place, à son niveau, puisse satisfaire son besoin relationnel, il faut réfléchir à quel est le reporting qu'on fait. Quand c'est un reporting qui consiste juste à dire qu'à cette animation, j'ai eu tant de personnes, à cette animation, j'ai eu tant de personnes, voilà tout ce que j'ai fait dans la semaine. Ça n'a pas d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est qu'un animateur me dise, bon, cette semaine, j'ai encore eu toujours les mêmes. L'année prochaine, la semaine prochaine, j'ai identifié cinq personnes. Il faut que sur ces cinq personnes, je puisse avoir établi un lien, une discussion, puisse consacrer 15 minutes à chacun de ces cinq personnes pour mieux comprendre ce qu'ils veulent, ce que je peux faire, etc. Là, ça me paraît beaucoup plus intéressant comme reporting. Voilà, je cherche pas à dire qu'il ne faut pas de reporting. Je pense que l'animateur ne doit pas se contenter de regarder combien de personnes participent parce que c'est le pire indicateur qu'on peut choisir. Pour moi, le meilleur indicateur qu'on peut choisir, c'est qui sont ceux que je n'ai pas vus cette semaine, ces 2 dernières semaines, comment je fais en sorte de savoir pourquoi je ne les vois plus s'ils participent d'habitude et qu'en ce moment je ne les vois plus, comment je fais s'ils ne participent jamais pour rentrer en contact avec eux et essayer de comprendre ce qu'ils attendent, ce qu'on peut faire, etc. Comment je fais si cette personne est dans l'objection totale avec tout ce qu'on apporte? Voilà. Avoir plutôt cette vision presque individualisée. Enfin, qui en est où, quoi? Sachant que
L'individualisation,
pour
c'est censé
beaucoup,
être un peu.
la finalité, ce n'est pas forcément la participation à l'animation, hein, puisque l'animation étant que le moyen de satisfaire le besoin relationnel. Ce qu'il faut réfléchir, et un animateur, c'est ça, il doit réfléchir au meilleur moyen de satisfaire ce besoin relationnel. Souvent, ça passe par l'animation, parce qu'on peut faire plein de choses avec l'animation, beaucoup plus que ce qu'on en fait aujourd'hui. Mais des fois, ça ne fonctionnera pas, l'animation. Il faudra d'autres modes de relation.
Ouais, carrément. C'est super intéressant d'avoir cette approche, de se dire qu'en fait les indicateurs, puisque du coup on reste dans cette logique quand même de mesurer, mais sont pas les bons. Et je te rejoins, oui, la question c'est pas combien j'ai fait d'activités, combien de personnes ont participé, c'est plus d'aller sur du qualitatif et de se dire voilà, qui apprécie et un moyen, parce que c'est toujours plus dur d'évaluer du qualitatif, ce sera de dire bah, en fait oui, combien de personnes se déplace et touché et volontaire, et ça pourra donner une idée d'une animation qui fonctionne bien. Mais c'est un vaste vaste sujet, vaste chantier, et malheureusement beaucoup d'établissements sont pas, je pense que les établissements même au sens large sont pas suffisamment, il y a pas assez de, c'est pas tant une question, c'est une question de moyens, pas forcément de personnes, mais de, enfin voilà, de se donner les moyens de faire tout ça. C'est ça qui est compliqué. Parce
Ouais,
que
pour
ça
moi, il faut
demande.
changer de paradigme quand même au départ.
Et il y a
On
ça
a quand même
aussi,
un
ouais.
paradigme assez erroné en termes. L'animation, c'est pour apporter un peu de gaieté dans l'établissement. Oui, pour une part, c'est vrai. Mais c'est loin, loin, loin d'être la réalité. L'animation, c'est pour satisfaire, rentrer dans un projet thérapeutique. Oui, peut-être. Mais si on n'a pas réussi à faire participer les gens. Inutile de dire que le projet thérapeutique, on ne l'atteindra pas par l'animation, si, ne serait-ce qu'il ne participe pas. C'est juste, voilà, replacer les choses à l'endroit, rappeler très humblement que l'animation, c'est un moyen de satisfaire le besoin relationnel, ce n'est pas le seul, et que c'est ce besoin-là relationnel qui doit obséder l'animateur. Et s'il est obsédé par la satisfaction du besoin relationnel de chacun de ses résidents, alors, Alors, la progression, elle y est. Et est-ce qu'on peut mesurer ça? Pour moi, on peut le mesurer même de manière quantitative avec un nombre de participations à une vie collective ou sociale à l'échelle peut-être d'un mois. En gros, c'est développer l'attention de chacun dans l'équipe et de dire, OK, Madame Martin, elle ne participe jamais aux animations. Mais Madame Martin, elle est deux fois par semaine chez Madame Jocelyne et il joue aux cartes. OK. Elle n'est pas seule, elle ne s'enferme pas, elle a son besoin relationnel qui est au moins en partie satisfait. Et voilà, peut-être que ça suffit. Il ne faut pas chercher à tout prix à la mettre dans l'animation. Par contre, il faut à tout prix chercher à valider le fait que son besoin relationnel n'est pas laissé pour compte, quoi.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors, tu abordes un peu de cette manière-là énormément de sujets. On n'aura pas forcément le temps de revenir sur tout, mais moi, ce qui me. Comme dernière question que je voudrais te poser, c'est comment tu fais, puisque tu ne sembles pas dans ton quotidien être directement sur le terrain au contact des équipes, comment tu fais pour être aussi juste dans ton analyse?
Ok,
Est-ce que tu es sur
si
le
on.
terrain en fait? Est-ce que tu es dans les établissements? Comment tu
Et
fais?
alors, ouais, j'en vois pas mal. Et en fait,
D'accord.
j'ai en plus la chance. Alors, l'année 2020 est un petit peu différente des autres années, mais j'ai en plus la chance d'en voir beaucoup de différents. Ce qui est que la prise de recul, la prise de hauteur est plus facile que si j'étais toujours dans le même établissement. C'est une vraie
Je
chance parce
comprends.
que, en fait, je vois un condensé de situation à une vitesse assez incroyable. J'échange énormément avec les équipes quand je vais sur le terrain et j'y vais quand même pas mal de fois. Et donc, du coup, cette multiplicité des expériences qui finalement se regroupent un peu sur tous les établissements, et bah, cette découverte, elle se fait assez de manière assez instinctive. En plus, j'ai passé quand même pas mal de temps à faire des formations. Et c'est pareil, en formation, on a un condensé de différents établissements qui se réunissent pour parler de sujets. Et très vite, on identifie les sujets qui sont récurrents, les situations qui sont récurrentes. Et ça, c'est un point important. Néanmoins, sociogérontologie, ce n'est pas une analyse des professionnels. Ça reste une analyse des personnes qui sont âgées, qui vivent à l'âge de la vieillesse, qui ont des caractéristiques particulières, que ce soit en matière de mode de vie, en matière de valeurs, en matière de ressenti corporel. Et que moi, ma mission, ça reste de transmettre cette spécificité d'être vieux, et encore une fois, je le mets au singulier, mais des vieux, hein, aux équipes. Et après, c'est à elles de faire l'autre moitié du chemin, qui est de dire, entre la théorie qui est un peu expliquée là, malgré avec les exemples, et la situation telle que moi je la vis dans mon établissement, quels sont les liens que je peux faire? Et donc, quand je donne un exemple ou une mise d'application, en règle générale, 80% du chemin est fait, mais il reste toujours une part du chemin à faire par l'équipe, en fait, par le manager qui écoute et qui dit, bah oui, ça se réalise grosso modo. Il y a une toute petite nuance que je dois prendre en compte pour adapter à la culture de mon établissement, par exemple.
Ça marche. Donc, tu es quand même pas mal en contact avec les équipes et c'est ça qui fait que tu puisses avoir autant d'infos et on va dire, de concret sur ce qui se passe et en même temps d'avoir aussi le recul. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire quel sujet tu vas aborder ou que tu aimerais aborder prochainement?
Ok, plein de sujets sur ma liste de choses à aborder. J'ai un gros sujet que je veux aborder qui est la mort.
Ouais.
La mort, alors d'abord la mort en termes de rapport à la mort qu'entretiennent les personnes âgées. La mort telle qu'elle est vécue aussi dans nos équipes. Alors là, c'est encore un exercice un petit peu différent et qui va contredire ce que je viens de dire à l'instant. Mais notre manière d'appréhender ça en établissement, elle peut être améliorée et pas d'un point de vue purement. Enfin, elle peut être améliorée. Bon, j'en dis pas trop parce que sinon je rentrerai dans des détails qui risquent d'être un peu longs, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. La question du suicide aussi de la personne m'intéresse. Comment on en arrive là, comment on prévient, comment on accompagne. Ça, c'est un point important. Au-delà du sujet de la mort, moi, ce qui continue de m'intéresser, c'est toutes les idées que je vais pouvoir, enfin, tous les préjugés que je vais pouvoir remettre en question. bienveillance, inclusion. Toutes ces choses-là, moi, sont des sujets qui, par définition, vont m'intéresser. Et puis, il y a des sujets qui sont vraiment le cœur de mes recherches, que je cherche à vulgariser, on va dire, à rendre beaucoup plus accessible. Une des questions qui me paraît, par exemple, centrale, et je suis loin d'en avoir fait le tour, c'est la question, du sentiment d'être chez soi. En établissement, on ne fait que de répéter que on est chez soi, c'est un lieu de vie, etc. Ok, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment la personne réussit à créer ce sentiment? Quelles sont les conditions qui ne permettent pas la réalisation de ce sentiment? En tant qu'équipe, qu'est-ce qu'on peut faire petit par petit pour réussir ça? C'est des sujets que j'ai commencé à aborder, que je n'ai qu'effleuré. Et il faut juste que j'arrive à donner des angles à mes analyses qui sont encore pour certaines un peu trop académiques pour ce que je veux faire et pas assez pratico-pratique. Voilà. Donc, pas mal de sujets en cours. À court terme, les sujets sur la mort. À moyen terme, je continuerai de toute façon de faire des choses qui, voilà, où je casse les préjugés. Et comme sujet de prédilection, moi j'ai la question du chez soi, j'ai la question de la qualité de vie aussi. J'en parle pas beaucoup encore, mais c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Toutes les questions autour de la prévention. Alors encore une fois, hein, c'est une appréhension assez différente de ce qu'on fait en matière de prévention, mais qui sont aussi des sujets qui pour moi sont très intéressants.
Ok, donc ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. On a encore plein d'épisodes à découvrir sur
Alors,
2021.
j'ai un stock d'épisodes assez important. Ce qu'il faut, c'est que je trouve le temps de les mettre en mots. Ça me demande un peu de travail, et puis je fais ça sur mon temps de loisir. Donc, c'est pas toujours évident. Et puis, au cours du podcast, j'ai fait quelques très belles rencontres de personnes qui, à mon sens, pourraient poser aussi leur voix sur le podcast parce qu'ils ont une expertise universitaire sur le sujet. Et je trouve ça assez intéressant de se dire que voilà, quand on a consacré, d'un point de vue recherche, tant d'années à faire quelque chose, moi, je peux aider à faire le pas suivant, qui est la mise en application concrète au sein de nos établissements ou au sein de nos services.
Ça marche, ok. Ben, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, j'invite tout le monde à t'écouter, à écouter ton podcast, à le découvrir ou à le redécouvrir. Parce que moi, il y a pas mal d'épisodes que j'ai écoutés plusieurs fois. Tu vois, comme en les écoutant en voiture, comme ils sont assez courts, ils peuvent s'enchaîner. Et des fois, en fait, tu retombes sur quelque chose que tu as déjà écouté, mais tu le laisses et puis tu redécouvres des choses. Donc,
Ah, il s'écoute plusieurs
c'est
fois.
vraiment top. Ouais, non,
Il s'écoute
franchement, c'est
plusieurs
top.
fois. La première fois, en général, on n'est pas d'accord.
Ouais, ça peut. Et puis c'est vrai que tu as un bon rythme, en fait. Donc, c'est assez dense et il faut. Voilà, on redécouvre. Et puis après, c'est aussi en fonction des sujets sur lesquels on peut se pencher aussi sur le moment, avoir un peu une révélation ou une confirmation ou pas être d'accord.
Avec plaisir, vous pouvez retrouver tous les liens en description, je suppose. Et puis, je reste très accessible si vous voulez en discuter.
Ça marche, à bientôt. Salut.
Merci Alain.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez soit le partager ou le noter sur votre plateforme, ou encore laisser un commentaire sur LinkedIn ou Twitter. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.